eux, ils ont un trou dans la raquette, l'agent de marketing, ils prennent des retours, et toi, tu vas venir les aider. Un peu ce que disait Flavie, c'est l'angle mort, tu vois. Ils n'ont pas ça dans leur proposition de valeur, ils n'ont pas ce qui va aider leur client final à closer les leads qu'ils génèrent. Donc toi, tu arrives avec une proposition de valeur qui complète la leur et qui va venir avoir de l'impact sur leur client. Évidemment, tu ne peux pas arriver en disant, comme tu disais au début, j'aime bien l'histoire des synergies, on peut discuter de partenariat, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et tout, c'est hyper flou, ça ne veut rien dire, tout le monde perd son temps. Donc si ce n'est pas creusé un petit peu en amont, et pour moi ça tu le fais au niveau de ta stratégie, tu vas te définir ta proposition de valeur et d'impact pour chacun des personas, partnership potentiels dans ta cible.
Bienvenue sur Vendu, le podcast pour booster vos ventes. Ici, on parle de prospection, de vente, de closing, de relations clients, de management, mais aussi de mindset. C'est 100% concret. Je suis Laetitia Fall et je vous embarque dans une nouvelle discussion pour rejoindre le top 1% des meilleurs commerciaux. C'est votre dose de culture sales. Bonne écoute. Hello, bienvenue sur Vendu. Aujourd'hui, je suis avec Nicolas de Switchen, qui est sales coach spécialisé dans tout ce qui est stratégie de partenariat, Nearbound. Je l'ai invité aujourd'hui parce que j'avais envie de creuser encore plus ce sujet de stratégie de partenariat, de ce nouveau mot à la mode qu'on entend un peu partout, qui est Nearbound, suite à l'épisode que j'ai fait avec Flavie Prévost, qui a beaucoup plu. Du coup, Nicolas, tu as déjà mis en place des stratégies de partenariat dans des boîtes. Aujourd'hui, tu accompagnes plein de boîtes sur ce sujet-là. Donc voilà, l'idée, c'était qu'on aille encore un peu plus loin. Je vais te laisser te présenter. On est dans le même collectif de freelance avec pas mal de gens qui sont friands de tous les contenus Winning by Design. C'est comme ça qu'on s'est connus. Tu m'as parlé de des partenariats. Au départ, je n'ai pas trop tilté. Et en fait, tu as bien fait d'insister parce que dans ce monde-là où c'est compliqué aujourd'hui de prospecter, où c'est même un enfer, il nous faut d'autres alternatives. Et je pense que, en fait, cette alternative est très bonne et c'est celle que je pense que je mettrai en place pour pas mal de mes clients en 2024. Avant de démarrer, du coup, ce que je te propose, c'est de te présenter pour que les gens puissent savoir un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais et pourquoi tu es arrivé à ça, à te spécialiser sur ce sujet.
Ouais, parfait, avec plaisir. Mais déjà, merci Laetitia de l'invitation. C'est cool de faire ça avec toi. Et pour me présenter rapidement, ça fait une quinzaine d'années que je fais de la vente B2B. J'ai un profil plutôt BizDev, vraiment... BizDev, chasse, closing, etc. Puis après, j'ai fait un peu de management et j'ai fini sur des postes de head of sales dans le SaaS surtout, dans lesquels j'ai eu l'occasion aussi de lancer du partenariat. Aujourd'hui, du coup, comme tu as dit, je suis freelance, je suis sales coach. Je fais aussi des coachings, formations sur la partie vente partenariale. Et du coup, je suis ravi d'en parler avec toi parce que pour moi, c'est un sujet qui a été présent tout au long de ma carrière professionnelle. J'ai toujours utilisé, en fait, dans toutes mes expériences pro depuis 15 ans. Donc ça remonte un peu, mais en fait, je me suis toujours appuyé sur ce qu'on appelle aujourd'hui du partenariat ou du Nearbound pour aller chercher de la croissance. Et aujourd'hui, ça devient de plus en plus important, comme tu as évoqué, parce que c'est dur d'aller chercher des leads, c'est dur de générer de la croissance avec de l'inbound, avec de l'outbound, avec les canaux un petit peu classiques. Et du coup, aller chercher ce troisième canal et le faire de la bonne façon, ça devient vraiment critique. Et du coup, c'est cool d'en discuter ensemble. On va essayer de faire un truc très opérationnel pour donner des billes aux gens pour qu'ils puissent... voilà, challenger leur programme ou le lancer dès demain. Voilà.
Carrément. Ouais, effectivement. Donc, l'idée, en fait, sur laquelle on a réfléchi cet épisode, c'est de faire comme si, là, actuellement, on va lancer un programme de partenariat, de voir les différentes étapes et de prendre des exemples très concrets de SaaS. Donc, effectivement, un exemple qui est le CRM. Tu connais bien, vu que tu as été head of sales de nos CRM, et aussi également un exemple de LMS. Donc voilà, donc l'idée c'est qu'à chaque fois on donne des exemples concrets et qu'on ne cite pas juste les étapes à réaliser et que voilà, ça puisse en tout cas vous aider tous à vous projeter. Du coup, go, on y va.
Yes.
Si je veux me lancer aujourd'hui, voilà, on va dire que je veux lancer mon programme de partenariat, on va commencer par le CRM. Par quoi je commence ?
Déjà, en fait, moi, j'ai mis une grosse partie. La première étape, c'est de réfléchir en profondeur à ta stratégie. Et la stratégie, parce qu'en fait, on a tendance à vouloir lancer trop vite. Donc, c'est bien de passer à l'action, mais c'est bien quand même sur la stratégie de partenariat d'être au clair sur ce qu'on veut faire. Et déjà, se définir si c'est pour toi, si c'est dans ton ADN de ta boîte, et si c'est un truc que tu as envie de faire, lancer un programme de partenariat, parce que c'est forcément de l'investissement. Ça, c'est la première réflexion à avoir. Et moi, j'ai tendance à dire que c'est une stratégie qui peut marcher pour tout type de boîte, surtout dans le SaaS, dans la tech. Mais malgré tout, c'est une vraie réflexion à avoir. Est-ce que tu veux te lancer ou pas, quoi. Donc, ça paraît évident, mais bon, je le précise parce que c'est important de voir si c'est dans ton ADN et si c'est quelque chose que tu as envie de mettre en place. Ensuite, on va se définir des objectifs.
Mais qu'est-ce qui ferait que tu te...
Ouais.
Qu'est-ce que tu ferais ? Excuse-moi, je te coupe. Qu'est-ce qui ferait que tu te dirais je le mets en place ou je le mets pas en place ? Est-ce qu'il y a des il y a des secteurs où il y a des limites ou...
Ben en fait voilà, pour moi il y a pas vraiment de secteur où il y a des limites.
Pourquoi tu irais pas automatiquement ?
C'est plus dans l'ADN de ta boîte. Est-ce que tu vas avoir le temps d'investir dessus ? Est-ce que tu y crois ? Après tu as des signaux forts qui font que tu as vraiment intérêt d'y aller si tu es sur un marché hyper saturé. Donc on a pris l'exemple du CRM, c'est un marché assez saturé. Typiquement, tu es obligé un petit peu d'aller faire du partenariat parce que tes stratégies d'inbound et d'outbound classiques, elles vont être limitées. En fait, c'est surchargé, il y a du monde qui prospecte de partout, il y a du contenu de partout, donc ça va être limité. Du coup, tu es un petit peu obligé d'y aller. Et puis après, sinon, tu as d'autres industries, du service notamment, où tu n'es pas forcé d'y aller. En fait, il y a des boîtes qui font de la belle croissance avec du partenariat dans le service, mais il y en a d'autres aussi qui font de la vente en direct. Je pense par exemple à Uber Eats, je crois qu'ils font que de la vente en direct et très peu de partenariats. Donc voilà, c'est des stratégies et des ADN de boîte aussi.
Yes, ok, très clair.
Voilà.
Du coup, tu définis ton stratégie.
Ouais.
Ok.
Et après, tu penses à tes objectifs.
Et dans cette définition de stratégie, du coup ?
Ouais, tu penses à tes objectifs. Okay. En fait, quels vont être tes objectifs ? Ils sont multiples, hein. Clairement, quand tu lances une stratégie de partenariat. En fait, la stratégie de partenariat, c'est un petit peu entre le sales et le marketing, un peu comme vous en avez discuté avec Flavie. D'ailleurs, j'ai trouvé le podcast très cool. Mais en fait, quand tu vas définir tes objectifs, tu vas réfléchir à, évidemment, générer des leads, mais tu as aussi plein d'autres objectifs qui peuvent découler et être inclus dans ta stratégie de partenariat. Ça peut être aller chercher un meilleur accompagnement, plus de rétention, donc limiter ton churn, tu sais, parce que tu as plus d'accompagnement grâce à ton programme, donc tu limites ton churn. Ça peut être accéder à un nouveau marché, développer ta notoriété de marque, développer un produit complémentaire aussi ou des fonctionnalités complémentaires. Notamment dans le SaaS, ça se fait beaucoup. Donc voilà, tu as plusieurs types d'objectifs et c'est important de penser un petit peu dessus et de définir ce que tu veux faire. Tu vois, je te donne l'exemple de ce qu'on avait fait chez nos CRM.
Okay.
Nous, on voulait clairement générer des leads qualifiés. On voulait ajouter des fonctionnalités à notre CRM en utilisant le partenariat. Donc, pas les développer in-house, mais faire de l'intégration. Et on voulait aussi accéder à des nouveaux marchés géographiques et aller toucher des cibles un peu plus grandes en passant par le partenariat. C'était ça, nos trois objectifs principaux.
Ok.
Ok.
Très clair. Du coup, ouais, nickel. Nickel.
Trop cool.
Très clair.
Et après, en
et
fait,
du coup, quand tu dis
si
que...
je continue, pardon, je te coupe, mais si je continue, en fait, si tu prends les objectifs, tu vas en décliner, en fait, quel type de partenaire tu vas mettre en place. Et en fait, type de partenaire, t'en as plein de types, mais en fait, dans le SaaS, très clairement, t'as d'abord ton partenaire technologique. Donc, intégration, je donne un exemple tout bête, mais nos CRM intégrés avec Aircall, par exemple, c'est assez logique. Tu veux adresser une cible de commerciaux ou de direction commerciale. Voilà, tu fais une intégration, ça marche bien. Et sinon, ensuite, tu as tout ce qui est plutôt partenariat commerciaux. Affiliation, apport d'affaires, des partenaires intégrateurs, des revendeurs. Donc, tu définis quel type de partenaire tu veux lancer en fonction de ton business.
Okay.
Et en fonction de la maturité aussi de ton business. Tu ne vas pas pouvoir lancer tout en même temps. Donc, tu essaies d'ajuster en fonction de où tu en es dans le développement de ta boîte et qu'est-ce qui va être les leviers les plus importants pour t'aider dans ta croissance.
Ok, nickel.
Voilà, par exemple, je t'ai donné l'exemple pour un CRM. Après, pour une plateforme un peu plus grosse, type LMS par exemple, tu vas plutôt réfléchir à de l'apport d'affaires. Et à des partenaires intégrateurs qui vont déployer ta solution.
Comme HubSpot, quoi, globalement.
Voilà, HubSpot, il se passe beaucoup par ça. C'est une stratégie vraiment... eux, c'est les maîtres de la stratégie partenaire intégrateur.
C'est le maître.
Non, ouais, carrément. Tu as un exemple différent, j'ai cité tout à l'heure, Aircall. Eux, ils sont basés beaucoup sur les partenaires technologiques. Ils sont intégrés avec plein d'autres plateformes et c'est comme ça qu'ils sont allés chercher des users et des clients à travers, en fait, des partenaires technologiques. Ils ont fait une énorme croissance via ce canal.
Ok, nickel. Du coup, bah, clairement, en fait, finalement, c'est une stratégie très sales, en fait, dans l'approche.
Ouais.
Finalement, quand tu mets en place ta stratégie, tu as tes objectifs, tu as ton ICP idéal customer ou idéal partnership, partner profile, on va dire.
Ouais.
Tu as tes segments, les avantages que tu vas choisir. Enfin, voilà, qu'est-ce que tu... Enfin, du coup, forcément, tu as cette réflexion de, OK, qui je vais cibler et quels sont les avantages et les bénéfices que je vais pouvoir apporter, du coup, à mon partenaire, quoi.
Exactement. Et tu fais... Là, moi, j'aime bien apporter la notion d'impact qui nous est chère à Winning by Design, dont tu parlais tout à l'heure. Et quel impact, en fait, le partenariat va avoir sur le partenaire et quel impact on va avoir conjointement, moi plus mon partenaire, sur le client final, tu vois. Et une fois que tu as bien défini ça, je pense que tu as fait un peu le tour de ta stratégie, mais on en revient sur l'impact. Et ça, ça va t'aider à la fois à définir quels sont les bons partenaires pour toi, comment tu vas les intéresser à ton programme de partenaire, et ensuite, comment tu vas vendre avec eux.
OK, très clair. Du coup, on a défini la stratégie. C'est quoi le next step? C'est quoi la deuxième étape,
moi, j'ai un truc que j'ai appris des US, c'était quand je me suis formé sur le programme de partenaire aux US. D'onboarder les équipes en interne, c'est-à-dire être sûr que tu as le soutien de ton équipe sales, de ton CEO, de ton CTO et de l'équipe marketing. Alors, si tu es en early stage, que c'est toi le founder et tout, bon, évidemment, tu as le support de toi-même, normalement, tu peux pouvoir avancer. Mais, mais sur les boîtes qui ont déjà un petit peu avancé, qui sont lancées, c'est hyper important parce qu'en fait, c'est une stratégie qui prend des ressources, qui prend du temps. Et si ce n'est pas clairement validé sur la stratégie au niveau C-level, tu as un vrai risque que ça coince à un moment, qu'il y ait un désalignement qui se fasse et que du coup, tu perds du temps et puis que ça s'arrête, quoi. Du coup, ça, c'est un point super important.
OK, mais du coup, ça... OK, tu fais comment, ce serait quoi un onboarding en fait sur ce sujet en fait? C'est comme quand tu crées une nouvelle offre et du coup que tu réunis tout le monde et que tu expliques à chaque partie qu'est-ce que cette nouvelle offre va du coup impliquer, que ce soit au niveau des sales, dans la manière de le vendre, que ce soit dans la manière du marketing, de la manière de, pareil, de le vendre, en tout cas de communiquer et de faire du contenu autour, le produit, la manière de délivrer, les customer success, la manière de, pareil, de délivrer, etc. C'est le même fonctionnement, comment tu ferais un onboarding interne?
Ouais, si par exemple... C'est exactement ça, en fait.
Je suis CEO, j'ai...
Pardon, vas-y.
Non, je disais, je suis CEO d'un nouveau CRM que je veux lancer. Du coup, je fais quoi? Je réunis qui? Imaginons, on est sur une équipe classique, elle est sales, CSM, market, product. Ouais. Du coup, je fais quoi, en fait? Comment je me prends?
Ouais. Comment tu t'y prends? Tu prépares... Moi, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je recommande. Une présentation assez exhaustive qui va présenter le programme de partenariat, pourquoi tu le fais, etc. Les différents objectifs et ensuite, surtout, les process qui vont être impliqués par le programme de partenariat. Et ça, ça va inclure tout le monde parce que tu vas avoir des sales, ils vont être impactés. L'équipe marketing, évidemment, elle va devoir t'aider. Tu as les CSM, comme tu l'as dit, ils vont aussi être impactés. Et puis, tu as aussi ton CTO, tu vas probablement avoir de l'intégration. Donc, en fait, tu dois définir des process qui vont concerner tout le monde pour chacune des étapes. Comment on fait pour décider si on lance cette intégration technologique? Ça plutôt avec ta partie product. Comment on fait pour décider si on lance des marketing, des actions de co-marketing avec tel ou tel partenaire? Qui les met en place? Comment ça se communique, etc. Ça, c'est plus l'équipe marketing. Donc, en fait, tu vas penser un peu tout le process qui découle de ton programme de partenariat et tu vas le valider, en fait, le co-construire et le co-valider avec tout le monde pour que tout le monde soit aligné, tout le monde soit en phase avec ça et qu'ensuite, tu puisses lancer la machine. Voilà, tout simplement. Et après, avec ton CEO...
Ok, je trouve ça hyper intéressant.
Si t'es le partenaire manager, il faut que tu valides avec ton CEO ta stratégie. C'est-à-dire, il faut définir vraiment des KPI que tu vas suivre et qui vont te permettre d'être aligné avec lui pour pouvoir en face demander des ressources, avancer, prendre du temps, etc. Donc ça, c'est une autre partie. Mais donc, t'as la partie vraiment convaincre ton CEO de le lancer et la partie process interne qui est hyper importante. Parce que tout le monde va être impacté et tout le monde doit savoir ce qu'il doit faire avec ce programme de partenariat.
Ouais, je trouve ça hyper important de le mettre en avant parce que je pense que, tu vois, avec toutes les nouveautés, à chaque fois qu'il y a une nouveauté, les gens sont en mode « Ok, on y va, on teste », mais sans prendre toute la mesure, en fait, de ce que ça veut dire de mettre en place ce genre de stratégie. Ouais. Il se trouve qu'en fait, c'est une stratégie vraiment inhérente de la boîte qui va avoir un impact, c'est-à-dire que si tu veux mettre en place une stratégie de partenariat, va falloir que tu enlèves des choses. Généralement, les gens ont tendance à se dire « Ah, on fait tout en même temps », mais en fait, non, c'est pas possible. Donc ça, c'est hyper important d'avoir ça en tête, de se dire que oui, ça va prendre de la bande passante de tes CSM, de tes sales, du marketing, du produit, etc. Donc, ça veut dire qu'il faut que il y a des choses, soit c'est une priorité, et du coup, ça veut dire que quand ils sont confrontés à du coup délivrer sur cette partie-là, ça doit être une priorité, ça doit pas être le truc en plus. Je dis ça parce que c'est souvent le cas, hein. Le truc de partenariat, c'est le dernier truc que tu mets dans ta to-do list parce que ça concerne pas un client qui paye pour de vrai, etc. Donc je pense que c'est important que les gens se disent non, on est sur une stratégie long terme et si on veut que ça marche, bah, il faut mettre tout, enfin faut y aller vraiment.
Ouais, c'est ça.
Autrement, on aura des petits résultats. Ok, du coup, ça c'est très clair sur cette partie-là. Troisième étape, du coup.
Ouais. Troisième étape, moi je parlais de mettre en place un outil. Alors, un outil, ça va être, il y a deux ou trois types d'outils qu'on peut mentionner pour le partenariat. Mais de base, bon, si on est un peu early stage, qu'on se lance, tu veux commencer à démarcher ou à suivre des partenaires, il te faut à minima un petit outil de CRM, tu vois. Ça peut être un Google Sheet au début, à la limite. Mais sinon, il te faut un petit outil pour te permettre tout simplement de suivre un peu les prospects que tu as dans ton pipe pour aller démarcher des partenaires et te mettre un petit peu des actions de suivi. C'est tout bête, ça paraît évident, mais je préfère le mentionner parce qu'il faut être aligné là-dessus. On peut vite se perdre si on veut suivre une dizaine, une quinzaine de partenaires. Donc, un petit outil pour suivre tout ça. Ça peut être un Notion, ça peut être un petit CRM ou un Google Sheet. Et ensuite, tu as tout ce qui est outils qu'on appelle les PRM. Donc, tu vois, c'est des plateformes de Partnership Relation Management. Donc, CRM, mais pour les partenaires. Et là, tu as deux gros types de... Je le mentionne parce que c'est assez intéressant et c'est pas très connu. Tu as deux gros types de plateformes de PRM. Tu en as une qui est plus... un type qui est plus dédié à de l'affiliation. Donc, pour recadrer le truc, l'affiliation, ça va plus être de la vente transactionnelle. Typiquement, je donne l'exemple du CRM. Tu es sur un petit panier moyen à l'année, on va dire un type no CRM ou type Pipedrive, tu vois, des petites licences à 40 euros par mois, tu es sur de la vente un peu plus transactionnelle, un peu low touch en termes de sales. Du coup, tu vas plus avoir des partenaires qui sont un petit peu low touch aussi, qui vont passer par de l'affiliation. Et du coup, tu as des plateformes en fait qui te gèrent ça, c'est-à-dire qui vont suivre les liens d'affiliation, suivre le nombre de clics, le nombre de souscriptions à ton SaaS, et ensuite qui vont même payer pour toi tes partenaires en fonction des licences et du niveau de commission que tu leur as attribué. Voilà, donc ça, c'est un type de plateforme qui t'aide à gérer l'affiliation, gérer tes partenaires. Malgré tout, ils font aussi, en fait, ils gèrent des ressources, ils gèrent un peu d'automation pour envoyer des mails à tes partenaires, etc. Donc ça, c'est un type de plateforme. Moi, je donne un exemple, j'avais utilisé First Promoter qui était très bien. Je donne parce que j'avais fait un peu de benchmark sur ces types de plateformes et c'était un très bon rapport qualité-prix. Ça s'appelle First Promoter. Et ensuite, tu as toutes les zones.
Et du coup, juste une petite question avant de passer au deuxième type de... Ouais. J'oublie pas, hein, parce que c'est hyper important. Au deuxième type de PRM, ouais. Du coup. Ces outils-là, ils sont intégrables facilement avec le CRM parce que ce que j'ai peur, c'est qu'en fait, finalement, en fait, tu développes plein de trucs. Ouais. Enfin, tu as ton CRM. On voit déjà une super blague qui est sortie, une super vidéo qui est sortie sur LinkedIn à propos de ça. Le fait que déjà, les sales n'ont pas envie de remplir un CRM.
Ouais,
ça les intéresse pas. Du coup, c'est pareil pour le partenariat. Enfin, ouais. Voilà, il y aura la même chose. Donc, je vois très bien l'objectif de tout traquer, etc. etc. Donc, il faut le faire. Mais est-ce que du coup, c'est possible de faire des liens assez facilement entre le CRM, du coup, qui est un peu, pour moi, à chaque fois, tu vois, le...
Ta base, quoi.
La pièce maîtresse, ouais. Tu vois, la base, et avec d'autres outils qui s'intègrent.
Ouais, non, mais clairement, nous, on utilisait nos CRM pour suivre nos ventes, nos partenaires, enfin, pour suivre un peu tout. Et cette plateforme, donc First Promoter, elle était là, ne serait-ce que parce que tu es obligé à un moment, si tu fais du volume en termes de partenaires, et notamment sur de l'affiliation, tu ne peux pas suivre tout ça tout seul et payer des commissions, tu vois, ça devient l'enfer, ouais. Quoi. C'est impossible. Du coup, tu es obligé d'avoir ça. Et évidemment, oui, ça s'intègre. Mais c'est là où tu as besoin justement de ton équipe produit ou de ton équipe tech quoi, pour gérer ces intégrations. Être sûr que ton back-office de ton SaaS, il est intégré avec First Promoter pour que ça gère les commissions tout seul. Et que quand tu as un lead qui rentre, il soit flagué à un minimum et que tes sales, ils sachent que ça vient d'un partenaire. Tu vois, ça, c'est le minimum. Parce que sinon, ils vont le traiter comme un lead classique, alors que ce n'est pas un lead classique, ça vient d'un partenaire. Tu vois ce que je veux dire ? Donc oui, ça s'intègre bien. C'est pour ça qu'il faut embarquer ton équipe technique dès le départ. Dans le process, parce qu'ils vont avoir du boulot pour t'aider.
Ok. Et du coup, le deuxième type du coup de PRM,
ouais, deuxième, du coup, tu disais... Après, tu as des grosses plateformes en fait, qui te gèrent carrément. En fait, là, c'est complètement intégré avec ton CRM et ça te gère avec tes partenaires. En fait, ça va croiser tes pipes, ça va te gérer en fait, les opportunités communes, les clients communs. Donc, ça vient croiser beaucoup plus d'informations. C'est beaucoup plus lourd. On peut citer Reveal en France, qui s'est lancé sur ce créneau-là et ouais. qui d'ailleurs produit du contenu sympa sur le partenariat. Et après, tu as des grosses plateformes aux US. Moi, j'avais croisé Crossbeam, j'avais croisé PartnerStack aussi, qui sont des grosses plateformes.
Ouais,
ils ont des
c'est celle que je vois.
Ouais, tu les connais ?
Bah, en fait, je les connais depuis que je me suis intéressée au sujet, du coup, suite aux discussions avec toi et avec Flavie. Et c'est ceux qui créent le plus de contenu sur le sujet. Quoi. Donc,
déjà, ils créent plein de contenu. Donc, puis, ils ont même poussé le truc. En fait, ils ont créé une sorte de communauté. C'est-à-dire que leurs clients, à la fois SaaS et agence ou partenaire potentiel revendeur, bah, ils sont dans, dans le même truc. Donc, ils ont créé aussi la marketplace un peu. Donc, ça, c'est très malin. Puis, comme ça,
je trouve ça hyper intéressant.
Ouais, franchement, il y a plein de trucs à prendre de ce qu'ils ont fait là-bas. Ça, c'est sûr.
Yes. OK. Du coup, la partie choix d'outils, c'est assez clair. Il y a une quatrième étape.
Quatrième étape, ouais.
Du coup, on se lance maintenant. On y va. Du coup, ça donne quoi?
Bah, on se lance. J'ai mis une petite étape, lancement, communication, tu vois. Donc, je ne sais pas si on a vraiment besoin d'en parler beaucoup aujourd'hui, mais c'est tout bêtement se créer une petite landing page, faire un peu de médias, poster sur les social médias. Un petit tips aussi, tout bêtement, mais annoncer le fait que tu as un partenaire programme dans ta newsletter client, parce que tu peux très bien avoir des clients qui deviennent des partenaires. Ça, c'est possible. Bon, voilà. Okay. En fait, c'est tout.
C'est quoi comme exemple que tu as, par exemple, pour ça? Est-ce que tu as un exemple?
Bah, nous, on avait pas mal
de clients qui peuvent devenir un partenaire.
Ouais, bah, on avait des agences marketing ou des agences de consultants chez nos CRM qui sont devenus partenaires, qui sont devenus partenaires du programme. Hein. Tout simplement en envoyant une newsletter à notre base client, en annonçant le fait qu'on avait un problème de partenaire, il ne l'avait pas forcément vu ou on ne l'avait pas forcément communiqué. Et en fait, c'est tout bête, mais tu t'appuies sur ta base existante et tu en as quelques-uns qui sont devenus partenaires. Tu vois, ça peut être tout bêtement juste de l'affiliation ou devenir carrément des partenaires revendeurs. Mais... Voilà, donc c'est tout ce qui est lié à la com. Là, tu vas t'appuyer plus sur ton équipe marketing. Donc pareil, il faut que les process ils étaient bien lancés avant. Mais voilà, l'idée, c'est de lancer tout ça. Et évidemment, ce que je recommande aussi, c'est d'essayer de se construire comme une case study, tu vois, un use case avec un partenaire pour pouvoir renforcer toute cette communication, tu vois, créer une success story pour qu'il y ait une histoire sympa derrière à raconter quoi, sur la com.
Ok, très cool. Mais du coup, alors, tu parlais de landing page. J'arrive pas à savoir, à imaginer, ce serait quoi une landing page qui annonce un partenariat. Ça ressemble à quoi?
Alors, en fait,
c'est quoi le call to action? Qu'est-ce que tu racontes en fait sur une landing page?
Tu parles de ton programme de ton programme de partenaire. C'est la landing page sur ton site qui va présenter ce que tu fais avec tes partenaires. Donc, ça va présenter... ta segmentation de partenaires, ouais, on travaille avec tel type de partenaire. Tu annonces évidemment tes partenaires idéaux, donc un peu quand on dit c'est idéal partner profile dessus, et puis tu mets des call to action qui est venez postuler au programme de partenariat, hein, tout simplement. Donc en fait, l'idée c'est via cette landing page de générer de l'inbound sur tes partenaires.
Et ça marche ou pas, honnêtement? C'est-à-dire sur la partie CRM, nos CRM, t'arrivais à avoir du partenariat automatiquement? Ok.
Ouais. En fait, c'est des gens qui postulent.
Par contre, il faut être extrêmement bon.
C'est des gens qui postulent sur ta landing page. Du coup, ça te fait un petit peu d'inbound. Après, évidemment, il faut les qualifier, il faut voir si ça fit, etc. Mais ça te génère des conversations.
Ok. Hein. Ok. D'accord. Du coup, on a lancé, tout le monde est au courant, on a envoyé sur notre newsletter, on a fait notre landing page qui va bien, etc. Bon, je peux imaginer qu'il n'y a pas que de l'inbound qui arrive, qu'il y a vraiment faut être proactif en fait sur la partie partenariat, donc aller chercher ses partenaires. Ouais. Et donc, du coup, c'est un peu de la vente. C'est quoi le playbook globalement
En fait, toi qui es spécialisé...
D'un partner.
Ouais, non, mais toi qui es spécialisé...
D'un partner sales.
Dans la vente, c'est ça. En fait, il faut avoir une approche vraiment sales. Donc, c'est... Ça va te parler, mais... et puis, ça va parler sûrement à tous ceux qui écoutent. Mais voilà, en fait, tu as vraiment une approche identique à de la vente. Tu as identifié ton LDL partner profile. Il faut que tu crées ton argumentaire de vente, donc ta proposition de valeur en tant que partenaire. Pourquoi les gens voudraient te rejoindre en tant que partenaire? Et puis ensuite, tu travailles ton message à outreach, tu travailles ton storytelling, tu te crées des case studies pour convaincre, et puis après, tu vas travailler sur ton closing. Tu vas avoir des objections, tu vas devoir montrer ton business case, et puis tu as de la négociation et du closing de ton partenariat aussi, parce que tu as souvent des trucs à négocier, tu vois. Donc, en fait, c'est vraiment les mêmes étapes pour moi qu'un sales playbook, sauf que c'est adapté avec une mentalité partenariale. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu travailles un peu les messages, exactement pareil, tu travailles, tu t'entraînes, voilà, tu as une approche sales, mais derrière, tu as toujours cet état d'esprit où on va venir travailler plutôt du partenariat. Ce n'est pas de la vente, tu ne leur vends pas ton service, tu leur vends une collaboration. Donc, tu as plus de leviers de négociation et en général, tu as un intérêt un petit peu plus facile, entre guillemets, à aller chercher si tu as bien ciblé tes partenaires.
Alors, Aurélien Tardieu, qui anime le collectif freelance Winning by Design France, dans lequel on est,
yes.
Il a fait un commentaire sur un des posts que je trouvais intéressant, qui était « Ok, c'est un peu plus facile parce que tu ne vends pas quelque chose, sauf que bah, justement, ça crée qu'il y a beaucoup de gens qui font des approches qui ne sont pas… qui sont pas folles, quoi, et qui sont un peu genre, voilà, je vous propose d'être partenaire, et puis on s'arrête là.
Ouais.
pour que, en fait, les gens, et même surtout moi, je puisse avoir, en fait, un peu plus une idée, si on reprend cet exemple, en fait, de CRM,
ouais.
Comment, enfin, c'est par exemple, tu vois, c'est extrêmement clair, la manière dont tu vas le faire en outbound, etc. Comment tu, ce serait quoi ta première approche, si par exemple, tu faisais un mail, ou peut-être un contact sur LinkedIn,
ouais.
Ce serait quoi l'approche que tu aurais, tu vois ?
Bah en fait, tu vas te baser sur ce que tu as défini comme étant ta proposition de valeur et d'impact pour chacun des types de partenaires. Je prends un exemple, le CRM, si tu veux avoir... Il y avait un des types de partenaires qu'on pouvait avoir, c'est les agences marketing ou les agences qui de grosses. Okay. En fait, ils génèrent des leads. Potentiellement, leurs clients, ils reçoivent des leads. Potentiellement, ils ont besoin d'un CRM pour bien traiter ses leads, closer les leads, etc. Donc, dans la chaîne de valeur, l'agence grosse, elle est en amont, elle crée du lead, elle peut recommander un CRM à ses clients. Donc, nous, c'était un des types de persona de partnership. Donc, clairement, là-dessus, tu t'appuies sur le fait de qu'est-ce que tu leur apportes en plus qui va avoir de l'impact auprès de leurs clients. C'est ça, ton message. Et j'aimais bien ce qu'elle disait.
Ah, mais du coup, tu dis quoi ?
Bah tu dis voilà, nous...
Comment tu l'approcherais à une agence de marketing ? Tu lui dis, c'est quoi ta proposition de valeur, quoi.
Bah, tu lui dis que tu déjà t'expliques ce que toi t'apportes à tes clients. Donc, CRM, un outil pour aider à closer des deals. Et toi, tu sais que les agences marketing, elles n'ont pas ça dans leur proposition de valeur. Donc, moi, j'avais identifié, on avait identifié okay. que, en fait, souvent, ils génèrent du lead. Mais en fait, derrière, ils se prennent des retours de bâton de leurs clients en disant, bah non, mais ça close pas, c'est pas des bons leads et tout. Sauf qu'en fait, leurs clients, ils n'ont pas les outils pour venir suivre leur lead et closer leur lead. Donc, en fait, là, tu enlèves okay. un pain point de l'agence marketing qui est de se prendre des retours de leurs clients qui leur disent « mais ce n'est pas des bons leads ». Mais en fait, c'est juste qu'ils n'ont pas le process et l'outil pour closer les leads derrière. Donc, en fait, eux, ils ont un trou dans la raquette, l'agence marketing, ils prennent des retours et toi, tu vas venir les aider. Un peu ce que disait Flavie, c'est l'angle mort, tu vois. Ils n'ont pas ça dans leur proposition de valeur. Ils n'ont pas ce qui va aider leur client final à closer les leads qu'ils génèrent. Donc, toi, tu arrives avec une proposition de valeur
okay.
qui complète la leur. Et qui va venir avoir de l'impact sur leurs clients. Évidemment, tu ne peux pas arriver en disant, comme tu disais au début, j'aime bien l'histoire des synergies, on peut discuter de partenariat, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et tout, c'est hyper flou, ça ne veut rien dire, tout le monde perd son temps. Donc, si ce n'est pas creusé un petit peu en amont, et pour moi, ça, tu le fais au niveau de ta stratégie, tu vas te définir ta proposition de valeur et d'impact pour chacun des personas, partnership potentiel dans ta cible. Et c'est comme ça que tu vas les approcher.
Exactement comme la vente, donc ok, exactement comme la vente. Si tu avais une équipe, en fait, c'est tu leur dis voilà pour tel persona, voilà l'enjeu principal qu'ils ont et voilà l'approche que tu devrais mettre en place, en tout cas l'approche que tu devrais tester pour pouvoir les attacher. Mais en tout cas, je trouve que l'exemple que tu as donné, il est assez parlant, notamment sur, bah, sur cet angle mort que peuvent avoir les agences marketing.
Ouais.
Ok, du coup. L'autre chose que j'aimerais savoir, c'est toujours sur cette partie playbook.
Ouais.
C'est quoi le KPI que tu suis, en fait, pour savoir... Je ne parle pas vraiment du... Enfin, si, pourquoi pas, la partie... C'est pas vraiment du closing, parce que c'est un partenariat qui se fait. Il y a des partenariats qui vont être peut-être un peu plus structurés, d'autres beaucoup moins.
Ouais.
Quels sont les différents KPI, par exemple? Tu l'as dit, c'est comme de la vente, sauf que dans la vente, ce qu'on va suivre, c'est ok, le nombre de personnes que tu vas mettre dans la machine, donc tu vas contacter. On va aller regarder le nombre de personnes avec qui tu as déclenché des conversations, le nombre de personnes que tu as qualifiées, donc avec des rendez-vous un peu certains, le nombre de deals que tu as générés.
Ouais.
la durée de ton cycle de vente et du coup le closing. Après, en fonction des secteurs et des industries, il y a des choses, tu vas aller rentrer plus en détail. Mais bon, voilà. Je pense que tu as l'image de ce fameux papillon, en fait, aussi également Winning by Design avec l'acquisition. Ouais. Bon, tu vois les différentes
étapes et
points de conversion qu'il peut y avoir. Sur les différentes étapes, c'est quoi que tu suis, en fait? Pour justement, je suis CEO, j'ai envie de savoir si c'est pas un peu bullshit ce que font mes équipes, est-ce qu'on va au bon endroit, etc. Ouais. Ouais, mais c'est important. C'est pour ça qu'en fait, je pense, je rentre les pieds dans le plat parce que généralement, les gens n'ont pas envie d'y aller. Ouais. Parce qu'ils se disent, en fait, j'ai pas la matière en fait, suffisante pour pouvoir savoir, ok, moi, je veux bien mettre en place une stratégie long terme. Mais si au bout d'un an et demi, tu te rends compte que tu as un, deux, trois partenaires, finalement, ça te génère, allez, je sais pas, un petit pourcentage de ton chiffre d'affaires, bon, tu vas arrêter. Mais ça se trouve, c'est juste que ce que tu suivais n'était pas bon. Peut-être qu'il fallait agir sur un point donné. Peut-être que tu ne contactais pas assez de personnes. Peut-être qu'il y a un type de partenaire qui, finalement, ce n'était pas les bons partenaires à aller chercher.
Carrément.
En tout cas, ça ne marchait pas. L'angle mort que tu as identifié n'est pas suffisamment fort, etc. etc. Donc voilà, c'est pour ça que je te pose la question. Quels sont les KPI que toi, tu dirais à une boîte de suivre?
Ouais, bah déjà, tu as exactement comme dans la vente, tu les as cités, les KPI de ce que j'appelle un peu la chasse aux partenaires. Donc, combien de cibles tu ajoutes dans ta liste, combien tu en contacts par semaine, combien de conversations tu as, combien de rendez-vous, combien de qualifs, etc. Donc, des trucs très sales, encore une fois, jusqu'à ce que ce partenaire il soit converti. Il soit converti comment? Si tu as des gros partenaires, il ne va pas forcément y avoir un contrat avec un closing, etc. C'est plus des accords de principe, c'est plus aussi de la formation. Et ensuite, tu passes dans l'étape d'après, qu'on discutera peut-être après, qui est le suivi de partenaire, où tu as d'autres KPI à suivre. Donc, dans ce qui est chasse aux partenaires, tu vas suivre vraiment un peu les mêmes KPI que dans de la vente. Ok. C'est un peu, c'est vraiment similaire. Et ensuite, tu passes dans la partie suivi, et c'est là où tu vas pouvoir suivre ou essayer de suivre la partie vraiment performance en fait, de ton programme. Voilà. Après, je reviens juste sur ce que tu disais très vite sur la cible. Évidemment, comme dans la vente, si tu vois que sur certaines cibles, ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à générer d'intérêt pour ton programme de partenariat ou à closer des deals, bah, tu vas devoir réajuster. Et en fait, nous, ça nous est arrivé chez nous CRM, parce qu'on voulait aussi intégrer des partenariats commerciaux avec des agences de consulting de vente, tu vois. Et on se disait, ce qui va les intéresser, c'est de vendre notre CRM et puis de vendre le service dessus. Et en fait, c'était pas une bonne cible. On s'est rendu compte que là-dessus, on se cassait un peu les dents, ça marchait pas, n'arrivait pas à closer des partenaires parce qu'en fait, c'était pas une bonne cible. Donc, tu réajustes exactement comme en vente. Et on a rebasculé plus sur des gens qui créent du contenu sur la vente et qui, du coup, peuvent être des partenaires affiliation. Tu vois ? Et là, tu rebascules sur un nouveau cycle de vente, enfin, des nouvelles actions, des nouvelles KPI sur un nouvel target. Et là, tu suis les mêmes maîtrises. Voilà, et ça nous conduit ensuite à parler peut-être de suivi de partenaires. Pour là, ensuite, suivre exactement la performance de ton programme, au-delà du nombre de partenaires.
Yes, mais juste avant d'arriver à cette étape-là, j'aimerais juste qu'on se dise, OK, aujourd'hui, j'ai deux sujets, tu vois. Ouais. Premier sujet, c'est le sujet des objectifs. Typiquement, j'ai un CRM, OK, je vais chercher des partenariats. Comment tu construis les objectifs sur la partie partenariat? Je ne parle pas des objectifs un peu macro que tu nous as donné au début, mais vraiment des objectifs sales, tu vois. Dans la vente, c'est extrêmement clair. Tu sais qu'à la fin de l'année, tu dois arriver à X. Alors, ça dépend si tu es dans le SaaS ou dans d'autres industries, mais soit tu dois arriver à X de MRR, soit tu dois arriver à X de chiffre d'affaires. Ouais. Ça, c'est la première chose. Donc ça m'intéresse de savoir comment tu construis justement partenariat. Est-ce que tu mets un objectif de chiffre d'affaires généré par les partenariats? Ou si tu mets un nombre de partenaires générés? Ça, c'est ma première question. Et je profite pour poser ma deuxième question aussi. C'est que tu sais bien que à Winning by Design, on est très... en tout cas, les gens qui aiment ce type de contenu, qui suivent ce contenu, on est beaucoup friands sur le fait de... OK, en vrai... Enfin, c'est surtout Aurélien qui dit beaucoup ça. Il faut absolument que les boîtes, elles fassent attention et qu'elles ne courent pas plusieurs segments à la fois.
Ouais.
Et j'imagine que c'est exactement pareil parce que tu as parlé de type de partenaire, affiliation, intégrateur. C'est pas la même manière de traiter, c'est pas les mêmes efforts que tu mets, c'est pas les mêmes probablement peut-être comme tu l'as dit, ça correspond pas au même chiffre d'affaires au même panier. Donc voilà, qu'est-ce que tu recommandes? Est-ce que tu recommandes en fait d'avoir en fait des stratégies où tu fais segment par segment, ou est-ce qu'au départ, au contraire, comme on est sur quelque chose de nouveau, il faut tous tester pour pouvoir identifier ce qui marche? Voilà, voilà mes deux questions. Ouais. Après, on passera à l'animation.
Ça va. Bah, je vais répondre à ta deuxième question. Je pense que c'est difficile sans recul de savoir ce qui va marcher. Tu vois. Donc, c'est un petit peu difficile de se dire tel segment, tel segment, tel segment. Donc, je dirais plutôt tester en mode low cost. C'est-à-dire, tu prends ton réseau LinkedIn, tu te dis, bah, cette personne, elle est potentiellement dans une cible. Tu essaies de contacter ces personnes qui sont déjà dans ton réseau. Tu vois, donc typiquement, nous, on avait des gens, des agences marketing déjà dans notre réseau, même qui étaient des clients de nos CRM. Bon, bah, on leur parle et on voit si ça peut les intéresser. Tu vois. Un peu comme tu fais quand tu lances un produit ou une nouvelle offre. Tu vas tester en mode entre guillemets low cost. Et après, définir des objectifs, c'est très dur. J'en parlais juste avant avec un client là, que j'accompagne là-dessus, où ils se sont mis des objectifs chiffrés en termes de chiffre d'affaires généré par les partenaires. Et ça, c'est hyper dur parce que comment tu fais? Après, tu vas décliner, tu prends ton panier moyen, okay, ton ACV, et tu te dis, bah, du coup, pour générer tant de chiffre d'affaires, il faut que j'ai à peu près une vingtaine de partenaires qui me génèrent 5 leads par an. Bon, voilà. Et comment tu estimes tout ça? C'est hyper dur. Donc, c'est avec la connaissance du marché, avec la connaissance des acteurs qui sont potentiellement dans ton écosystème. Et cette connaissance, elle n'est pas facile à avoir au début. Donc, en fait, ça va être quelque chose qui va évoluer.
OK.
Tu vois? Donc, plus tu vas générer de conversations...
Donc, peut-être que ce serait peut-être en... Ouais, plus tu sauras.
Plus tu vas savoir.
Et peut-être qu'en fait, du coup, c'est plus quelque chose que tu mets en place en année 2 plutôt qu'en année 1. Tu lances la première année, tu vois, et en année 2, tu as pu voir, justement, on va y aller.
Ouais, en fait.
Pour le suivi partenariat, si ça prend en termes de suivi, etc. Et si tu peux vraiment générer du chiffre d'affaires avec.
Bah, c'est ça. En fait, tu as toujours l'intuition que tu peux générer du chiffre d'affaires et tu as des intuitions de base. Mais en fait, il faut les éprouver sur le terrain et fixer des objectifs macro en termes de chiffre d'affaires. C'est hyper dur, hein, je trouve. Par contre, se fixer des objectifs en termes de nombre de partenaires, de nombre d'opportunités générées, de nombre d'actions qu'on fait avec ses partenaires, parce qu'on n'a pas trop parlé, mais tu peux mettre en place des choses avec les partenaires, peut-être on en parlera juste après. Ça c'est des choses que tu peux te fixer des objectifs là-dessus. C'est-à-dire, je veux faire, je dis n'importe quoi, 2 webinaires par an avec chaque partenaire. Je veux faire 3 intégrations tech cette année. Ça, c'est des objectifs quanti que tu peux... tu peux maîtriser parce que ça dépend que de toi. Alors que le chiffre d'affaires généré par tes partenaires, ça dépend pas que de toi, tu vois. C'est un peu difficile de savoir exactement se fixer un objectif chiffré. Je trouve ça très dur. Par contre, des objectifs d'action concrètes,
très clair.
Ça, c'est plus simple.
OK, bah, très clair. Merci pour ça. Et alors, on a été à la chasse de nos partenaires. On a ciblé des partenaires. Maintenant, c'est l'animation. Je sais que c'est quelque chose que j'ai pu voir chez certains clients où c'est quand même... c'est pas évident parce que tu dois faire des choses à des gens qui t'ont pas payé.
Non, pas vraiment.
qui ont certes un intérêt, mais les intérêts peuvent bouger aussi. Donc, en fonction du contexte, etc.
Ouais.
Donc, justement, il y a toute cette partie pour que ça fonctionne. Il faut savoir animer son réseau de partenaires. Je pense qu'on va... On va plutôt rentrer dans l'animation sur la partie contractuelle. On en a déjà parlé un petit peu avec Flavie.
Merci.
Je pense qu'elle donne pas mal d'éléments. J'ai envie d'aller beaucoup plus loin avec toi sur la partie animation. Du coup, comment on crée justement une relation durable et quels sont les leviers? Pareil, je suis sur mon CRM, je suis une agence de marketing, gardons cet exemple-là.
Ouais.
Comment tu fais en sorte que, effectivement, tous les clients avec qui je bosse et pour qui je génère des leads, eh ben, je continue à leur pousser en fait, ton CRM et surtout que je continue à être fidèle, à te tenir au courant, etc.
Ouais, c'est
etc.
ça. Non, mais c'est un vrai gros sujet parce que, comme tu l'as dit, c'est presque du management, un peu transverse, sauf que tu n'as pas de relation hiérarchique directe. Donc, il y a un intérêt mutuel quand même qui a été détecté au départ, sinon ils ne seraient pas partenaires. Et donc, tu vas t'appuyer quand même constamment là-dessus. Mais sinon, j'ai envie de dire, ça se résume quand même à pas mal d'humains, enfin, beaucoup d'humains. Donc, c'est de l'animation, c'est de la création de la relation, de confiance. Et là, c'est une partie qui est assez intangible presque, tu vois, de créer cette relation humaine avec le partner manager ou la personne directrice de l'agence marketing en question. Donc avec toi, si tu es directrice de cette agence, ça va être vraiment une question de relation. Donc après, tu as des principes d'animation, un peu comme avec ton équipe sales, où tu vas faire des revues mensuelles, ce genre de choses. Mais pour continuer constamment de les pousser, il faut créer de la relation, créer de la confiance. Évidemment, on l'a pas mentionné, mais d'abord, tu as donné toutes les billes à cette agence pour qu'il soit autonome, pour travailler avec ton produit et vendre ton produit, tu vois. Donc, ça paraît tout con, mais en fait, il faut d'abord,
t'as fait de la formation.
D'abord, je vais t'onboarder, tu vois. Je vais te considérer presque comme un sales. Mmh. Si tu es dans mes partenaires prioritaires, que je crois que tu peux m'apporter du business, je vais t'onboarder presque comme un sales, tu vois. Je te passe mon playbook, je te passe tous mes argumentaires, je te fais une formation produit, formation sales. Et on va même se définir un petit plan d'action mutuel sur lequel on va se mettre d'accord et qui va nous servir de guide sur notre relation de partenariat. Ça, c'est un peu les outils et un peu la base, on va dire. Mais ensuite, qu'est-ce qui va faire que toi, Laetitia, tu vas continuer à pousser nos CRM ? Ça va être du contact humain et puis aussi ta confiance dans le produit et l'impact ensuite qu'on va délivrer ensemble à ton client final. S'il n'y a pas d'impact sur le client final, au bout d'un moment, tu vas abandonner, c'est sûr ça.
Ok, pour moi en fait c'est cette partie qui est la plus importante parce que oui t'as raison sur c'est aussi vrai dans le sales, la question de la création de la relation de confiance. Par contre le problème c'est que ce que t'as envie c'est qu'on a quand même envie de créer des modèles sur lesquels tu vois si j'ai mon head of partner qui est super proche de tous mes partenaires qui arrive à super bien les mettre en mouvement et qui a cette relation de confiance et demain il part et que je me retrouve avec une autre personne, j'ai un problème si je me base que là-dessus. Ouais. Là, je te parle vraiment comme personne qui... je te pose une question un peu naïve, mais parce que en mode, je me dis, OK, si demain, je suis CEO, j'ai mon head partner, je suis très content, il anime super bien les choses, on génère du chiffre, etc. Il part, je dois trouver un remplaçant.
Ouais.
Comme tu dis, c'est comme si tu remplaçais un manager. D'accord.
Ouais.
C'est pas évident.
Non.
C'est pas comme un sales, tu vois, genre où tu peux avoir un sales. C'est un nouveau sales, c'est un nouveau account. Évidemment que la relation compte, surtout quand on est sur du key account. Mais quand on est sur des comptes, on va dire, notamment sur le CRM,
ouais,
ça va peut-être moins avoir d'impact.
Quoi. Carrément.
Du coup, comment tu fais ça justement pour si tu devais donner peut-être, deux. Si tu arrives 3, j'aime bien le chiffre 3, type de choses que tu mettrais en place avec tes partenaires pour montrer, soit pour de la formation, parce que ton produit il est toujours en évolution, donc comment tu les tiens au courant,
ouais,
régulièrement et de quelle manière, de la roadmap, est-ce que c'est de l'écrit, est-ce que c'est du physique, est-ce que c'est de l'événement, est-ce que c'est de la démo, etc. Deuxièmement, comment tu fais justement pour pouvoir montrer cet impact réellement, voilà. Et surtout, comment t'arrives à les motiver, à leur montrer aussi également comme des sales, grâce à toi, j'ai fait ce chiffre-là, quoi. Donc,
ouais, très clair.
Voilà.
Ouais, c'est très clair. Je rebondis hyper vite sur ce que tu disais avant. C'est en fait le rôle de channel, je sais souvent aux US, ils appellent ça channel manager. En fait, c'est des rôles qui sont là-bas très seniors et pour lesquels les gens restent beaucoup plus longtemps que dans des postes de head of sales. Parce qu'en fait, c'est justement des rôles, c'est des rôles sur lesquels en fait la confiance est primordiale et du coup les personnes restent plus longtemps et ils sont hyper incentivés, ils sont hyper bien payés aux US parce que justement les boîtes veulent pas qu'ils partent parce qu'un partner manager qui part avec son réseau et qui va chez le concurrent, c'est hyper chaud. Donc c'est des rôles hyper cruciaux dans les stratégies de ces grosses boîtes aux US notamment. Ça, j'avais découvert ça, j'ai trouvé ça super intéressant le fait qu'ils restent 5-6 ans sur leur poste, quoi, les partner managers ou channel managers.
Super intéressant. Ouais. Du coup, c'est intéressant de... Et puis en plus, en même temps, ça ne m'étonne pas. Il faut quelqu'un qui ait quand même de la bouteille, une vision 360. Enfin, tu ne peux pas mettre le junior de sortie d'école, à moins qu'il soit très smart et très doué.
Ouais.
Mais il faut des gens qui aient l'habitude, en fait, qui est managé déjà.
Ouais, c'est ça.
En fait, c'est des gens qui ont managé et qui savent ce que c'est le management, qui savent ce que c'est... parce que moi, je sais que j'ai accompagné une boîte qui avait cette logique-là de partenariat.
Ouais.
Et ce qui m'avait perturbée, c'est que justement, je devais donner des techniques de management à quelqu'un qui manageait des partenaires.
Ouais.
Ça faisait de la vente indirecte. Et en vrai, du coup, ça se rejoint vraiment. Mais il y a quand même cette subtilité où tu n'as pas de lien hiérarchique.
C'est ça.
Mais du coup, c'était quand même quelqu'un qui avait plus de 15 ans d'expérience, en fait, tu vois, c'était quelqu'un de solide, ouais, tu ouais. vois. Du coup, il capte vite, il connaît extrêmement bien son industrie, il connaît extrêmement bien les intérêts de ses partenaires, il connaît extrêmement bien l'intérêt de la boîte dans laquelle il bosse. Enfin, du coup, en fait, c'est quelqu'un, direct, quand tu parles, c'est quelqu'un d'extrêmement mature, tu vois. Ouais. On n'est pas sur le head of sales qui est passé head of sales depuis 3 ans dans une startup ou scale-up et qui a encore beaucoup de choses à apprendre et qui a managé peu de personnes, quoi.
Ouais,
donc en tout cas, je trouve ça très intéressant, tu vois, de mettre un profil type de gens, en tout cas, qui ont de la bouteille, déjà managé des équipes et qui sont beaucoup plus stables, qui n'ont pas forcément envie de sauter de boîte en boîte, qui ont envie de rester dans des boîtes assez longtemps.
Ouais, je pense que c'est la nature du job qui fait ça. Et en fait, les boîtes qui ont tellement intérêt à garder leur channel manager qui fonctionne bien, qu'en fait, ils font tout pour les garder, quoi. Contrairement parfois au sales et tout. Mais ouais, passons sur tes questions, okay. un peu plus concrètes. Mais du coup, l'idée, c'était qu'est-ce qu'on met en place pour motiver, quelles sont les premières actions,
ouais,
quoi.
Ouais, quelles sont les actions que je mets en place, que ce soit sur la formation, que ce soit aussi également pour
les premières actions
l'impact,
que tu...
voilà.
Moi, ce que je recommande, c'est toujours d'avoir je l'ai mentionné juste avant, d'avoir un action plan. Donc, tu vas lister justement ces premières actions. Et les premières actions que tu fais, c'est tu fais un peu un account mapping. Donc là, tu es un peu au début de ta relation avec ton partenaire. Tu vas venir croiser un peu tes pipes, faire un petit mapping de ces comptes clients existants sur lesquels tu peux avoir des opportunités. Voilà, tu fais un petit peu le tour comme ça avec eux. Et ensuite, tu discutes tout de suite d'une stratégie un petit peu long terme qui va continuer de les motiver. Donc, tu vas avoir des revues régulières avec eux, à la fois pour checker un peu le pipeline, pour leur donner, moi, je dirais plutôt en offline, des infos sur la roadmap, les nouveautés, etc. Ça, tu peux utiliser un outil. Nous, on utilisait Notion, tout bêtement. On avait une page Notion partner dans laquelle on mettait plein d'infos et qui était en fait diffusée à l'ensemble de nos partnerships. Tu peux utiliser d'autres outils. Ça peut être un Google Drive, hein, tout bête, dans lequel tu mets en fait toutes les ressources sur lesquelles ils vont pouvoir s'appuyer pour vendre ton produit, pour se tenir informé, etc. Que ce soit le playbook de vente, les argumentaires, etc. Les nouvelles features. Les démos, évidemment, relativement régulière, sans que ça prenne trop de temps non plus. Ça, c'est plutôt dans la partie formation. Et sinon, c'est du suivi, je recommande mensuel ou trimestriel en termes de commercial. Et puis, dès qu'il y a des informations, tu les diffuses, tu envoies des informations et des ressources à tes partenaires. Ça, c'est
okay.
plus pour essayer
Nickel.
De structurer. Tu vois, tu essaies de structurer un petit peu l'approche. Après, tu vas rajouter des trucs informels. Comme on l'a dit, construire la relation et la relation humaine. Donc, aller faire des déjeuners, les inviter à des événements, tes partenaires, ils doivent être hyper proches de toi, surtout les bons partenaires. Donc, tu as tout ce qui est événementiel, créer des événements aussi, des co-marketing. Voilà, aller faire des bonnes bouffes au resto avec tes partenaires, les inviter à des soirées, etc.
Ça marche toujours.
Ouais, c'est hyper important. Donc ça, tu continues de le faire, comme avec tes très gros clients, mais avec les partenaires, c'est essentiel. Ouais.
Les bonnes bouffes, c'est toujours, je pense que c'est le canal
c'est la base.
D'acquisition le plus puissant jamais égalé. Ok, on avait parlé aussi également du coup d'une dernière étape, du coup,
ouais.
Qui est on sait suivre, on suit les partenaires, mais voilà, c'est un métier, la partie partnership qui évolue et qui va. Vu que ça prend de l'ampleur, il y aura de nouvelles techniques, il y aura de nouvelles choses qui vont arriver. Donc, la partie coaching et formation, ce que tu disais, c'est aussi une étape importante de ne pas laisser cette équipe tout seul faire leurs choses et ne pas se renouveler. Est-ce que tu as des éléments là-dessus un peu à apporter?
En fait, j'ai mis ça parce que, je ne sais pas si tu l'as constaté aussi, mais souvent, voire très souvent, les équipes partnership, c'est des équipes, on a pris un account manager ou on a pris un tiers du temps du head of sales et ils se retrouvent à gérer ça. Et bon, comment il faut faire et tout. Il n'y a pas vraiment de formation. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vécu comme ça. J'étais head of sales, on m'a dit, lance le programme de partenariat. En même temps, tu continues à manager l'équipe, puis tu les formes pour le faire et tout.
Plus tu vends, plus tu fais du market, voilà.
Exactement. Et du coup, moi, je me suis formé avec... aux US, sur un site qui s'appelle partnerprogramme.io. Je t'invite à regarder aussi un mec qui s'appelle Alex Glenn sur LinkedIn.
Yes.
Il a plein de super contenu là-dessus. Okay. Et puis, il a créé tout un écosystème super intéressant et il a une formation. C'est très, très américain, mais c'est très intéressant quand même. Et c'est ça qui m'a amené à mettre ce point, c'est que j'ai trouvé qu'en France, il y avait assez peu de contenu, très peu de formation, voire pas de formation. Et je trouve que c'est intéressant, de, comme on le fait aujourd'hui dans la vente, c'est assez classique maintenant d'avoir des formations, d'avoir du coaching, même pour des sales assez expérimentés, bah, le faire avec ton équipe partnership au moment où tu le lances, ou même pour venir challenger la stratégie, venir exécuter une nouvelle stratégie, etc. Voilà, c'est un point important.
Et surtout, je pense qu'il y aura de plus en plus d'apprentissage, vraiment, je dirais, sur la partie comment piloter, tu vois, toutes ces questions qu'on se pose, qui aujourd'hui sont, c'est pas forcément évident de mettre un chiffre d'affaires sur la partie partenariale, etc. Je pense que plus il y aura de gens qui vont le mettre en place, plus ce sera facile d'avoir des KPI spécifiques, de suivre des choses, voilà, d'avoir des stratégies, même effectivement de cold email, des stratégies de call qui sont spécifiques au partenariat. C'est pas la même chose de faire du cold call, j'imagine, quand tu veux être partenaire avec quelqu'un, quand tu veux lui vendre quelque chose.
C'est plus facile. Et surtout, par exemple, tu vois, genre, effectivement, je vois énormément
de gens faire du contenu.
Donc, aujourd'hui, moi-même, sur dans mes coachings, je m'appuie quand même sur ce que je fais en sales.
Voilà, exactement.
Et du coup, pour
moi, c'est très clair. On arrive au bout de cet épisode. Merci en tout cas d'avoir été hyper précis sur les étapes. Juste pour récapituler, il y a 7 étapes, en fait, globalement. Il y a définir sa stratégie, onboarder tout le monde en interne pour s'assurer que ce soit une priorité et définir les différents process. Choisir un outil pour piloter la stratégie de partenariat. Lancement, c'est-à-dire avec une annonce officielle de son offre de partenariat qu'on veut mettre en place, qu'on a mis en place, la vente, la prospection, chasser du partenaire, closer du partenaire. Et ensuite, la 6e étape, on a l'animation, le suivi, comment animer tout ce réseau et faire en sorte que ça débouche sur de réelles opportunités. Et enfin, la partie coaching et formation, c'est-à-dire évidemment avoir donné les moyens du coup aux gens qui sont dédiés à la partie de partenariat de progresser, d'itérer sur les pratiques. On est bon là-dessus?
On est bon. Très bien résumé.
Ok. Du coup, si tu avais un dernier conseil à donner sur quelqu'un, un CEO ou un directeur commercial qui justement se rend compte que pour ses équipes, ça commence à être très dur de générer des leads et qui veut trouver une nouvelle solution et proposer à son CEO, de se lancer. C'est quoi le conseil que tu donnerais en fait pour réussir ta stratégie de partenariat?
Si je dois prendre un seul conseil, c'est pas facile, mais je dirais de donner assez de temps, en fait, de voir ça comme un investissement un peu long terme. Comme un peu, on peut le voir sur une stratégie product-led growth, donc stratégie go-to-market basée sur le produit. Ça prend du temps, ce n'est pas un truc qui donne des résultats instantanés. Et le partenariat, pour moi, c'est un peu pareil. J'ai vécu comme ça un peu chez NoCRM. Ce n'était pas donné assez de temps au départ, à mon sens. Et je pense que ça prend du temps pour développer vraiment. Parce qu'on a parlé de beaucoup de choses, hein, tu vois, prospecter, closer, développer de la relation. Ça prend du temps. Et en plus, après, on est dépendant du pipe généré par les partenaires. Donc, il faut se donner le temps. Voilà, ce serait ça mon conseil.
Ok, effectivement, je pense que c'est un très bon conseil. C'est une stratégie long terme. Ouais. Évidemment, ce que j'aimais bien, c'est si vous avez un enjeu là sur le quarter tout de suite, il ne faut peut-être pas compter sur, sur une stratégie de partenariat pour pouvoir renverser la tendance. Par contre, si vous avez envie de préparer 2024 et les années suivantes, ça vaut le coup. D'ailleurs, en fait, si, je ne sais pas si je peux le dire, mais c'est qu'aujourd'hui, tu es parti de NCRM, tu n'es plus Head of Sales, mais ce que tu as mis en place aujourd'hui porte ses fruits chez nos CRM. Du coup, ça veut bien dire qu'il faut être patient sur ce type de stratégie. En tout cas, merci beaucoup, Nicolas, pour tes partages. Et je mettrai en fait les informations que tu as données, des exemples d'outils et aussi également de gens à suivre sur le sujet dans la description du podcast. Je t'en remercie.
Oh, cool. Merci à toi, Laetitia. C'était cool. À très vite.
C'est déjà la fin. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous repartez avec assez de matériel pour exploser vos ventes. Si vous n'en avez pas eu encore assez, abonnez-vous à Vendu dès maintenant sur votre appli de podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez aussi vous rendre sur mon site web www.vendu.fr où vous trouverez plus de contenu. Par exemple, tous les 15 jours, je décortique une vente que j'ai conclue ou ratée de A à Z pour partager mes meilleures stratégies. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.